Mémoire vive.
Présenté par Christelle Lepolotec.
Et préparé par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Catherine Bernstein, réalisatrice, et Jean-Marc Dreyfus, historien, pour le documentaire Opération T4, un médecin sous le nazisme, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans ce documentaire, vous interpellez directement Julius Hallervorden, docteur en neuropathologie, né en 1882 et mort en 1965 à Francfort. Ce professeur renommé, on lui doit d'ailleurs la découverte d'une pathologie mentale qui a porté quelque temps son nom, a 50 ans en 1933, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir. Dès lors, et sans qu'il soit un nazi convaincu, il n'adhérera, comme vous le dites dans le documentaire, que très tardivement au parti nazi en 1939. Il va cependant, dans le cadre de ses recherches, cautionner et, dans une certaine mesure, vous allez nous le dire, participer à l'opération T4, soit l'opération destinée dès 1940 à exterminer les malades mentaux en Allemagne. Cette opération lui permet en tant que scientifique de collecter les cerveaux de ces malades mentaux exterminés dans les chambres à gaz afin d'approfondir ses recherches. Après-guerre, Julius Hallervorden ne sera pas poursuivi et continuera tranquillement sa brillante carrière. Vous avez fait le choix, je l'ai dit, Catherine Bernstein, de l'interpeller directement dans ce documentaire. C'était une manière un peu de rendre une justice.
En tout cas, c'est une manière de l'interroger, lui, sur sa conscience. Je sais bien qu'il est mort, mais c'était une manière de l'interpeller, oui. Nous avons essayé, je dis nous parce que Jean-Marc Dreyfus a participé à ce projet, nous avons essayé de raconter la chronologie historique, comment petit à petit, au fur et à mesure des décennies, même après-guerre, on découvre et on découvre encore des nouvelles informations qui nous permettent de réécrire constamment l'histoire de ce qui s'est passé.
Parce que vous avez choisi de suivre le destin, non d'un des médecins les plus connus, comme Karl Brandt ou Victor Brack, qui seront, eux, jugés lors du procès des médecins de Nuremberg, mais une figure qui semble a priori de second plan et qui pourtant illustre peut-être d'autant mieux la manière dont les médecins ont renoncé à l'éthique même de la médecine sous le nazisme.
Oui, c'était l'idée, c'était de pouvoir s'identifier à un médecin parmi d'autres. Ce n'est pas un sadique comme le docteur Mengele, par exemple, ou ce n'est pas quelqu'un qui éprouve, enfin, qui torture ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, son propos. On a essayé de montrer petit à petit comment la première compromission, qui est anodine, et ouvre une boîte de Pandore et comment il va petit à petit s'engouffrer jusqu'au bout dans cet abîme de...
Je ne sais pas, oui.
Jean-Marc Dreyfus, le documentaire revient donc sur cette opération, l'opération TK, dont on peut situer l'origine dès 1933, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Hitler qui est déjà obsédé par l'idée de la pureté de la race et qui ordonne la stérilisation, donc dans un premier temps, des malades mentaux. Quelle est la population ciblée à ce moment-là?
Alors, on peut trouver les racines de cette opération T4 bien, bien plus tôt, en fait, dans l'histoire allemande et même européenne, avec l'émergence de l'eugénisme, d'un eugénisme médical, l'hygiène raciale, comme on disait en Allemagne, dès la fin du 19e siècle. C'est une histoire qui est relativement bien écrite, qui n'est pas bien traduite. Je dois dire qu'on lit très peu d'ouvrages en français sur les
recherches. Il y a Gobineau pourtant qui...
Non, cette histoire de l'eugénisme, de la science raciale et de ses conséquences directes sous le nazisme, on manque de traduction, de recherches récentes qui sont publiées en hébreu, en anglais et en allemand principalement. Enfin, nous les avons lues. Naturellement, avec Catherine. Alors, il y a cette vision de la société allemande comme un corps, donc vision médicale, médicalisée, on appelle ça une vision organiciste de la société, qui est composée de différentes cellules. Il y a une cellule du cerveau, alors vous imaginez qui c'est qui est le cerveau sous le nazisme. Et puis, ce corps doit être protégé avec une vision, en fait, liée au cancer. Il y a une obsession du cancer, et il faut enlever les cellules cancéreuses donc qui peuvent atteindre l'organisme et qui risquent de se multiplier. Alors, les premières cellules cancéreuses, ce sont les Ariens, donc on est vraiment là dans le cadre de la pureté de la race, des Ariens qui ne sont pas organiquement purs. Donc ces malades mentaux, avec une vision extrêmement variée de la maladie mentale, puisque dans les victimes directe et indirecte de Haller-Forden, il y a des grands dépressifs, par exemple. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui ont des pathologies
qu'on ne peut pas...
Oui, génétiques, des maladies génétiques. Et il y a donc cette volonté. Alors d'abord, la stérilisation qui a existé dans d'autres pays, il faut dire aux États-Unis, en Suède à la même époque, mais stérilisation forcée et stérilisation de masse. Et très rapidement, il y a cette idée que la stérilisation ne va pas assez loin et qu'il faut aller plus loin dans la purification de ce corps allemand, d'autant plus qu'on se prépare à la guerre sous le nazisme et qu'il faut la vigueur, le vitalisme, la vitalité du corps allemand. Il faut aussi économiser les ressources.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est en 1939, à peu près au moment de l'entrée en guerre, que Hitler décide de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'élimination des malades mentaux. Officiellement, et c'est ça qui est d'une cruauté hallucinante, c'est que c'est un processus purement médical, réalisé par des médecins, puisqu'il s'agirait d'abréger leur vie de souffrance. Et d'ailleurs, ce programme, vous le dites, va se dissimuler derrière le nom de Fondation Caritative des Soins en Institution. Une fondation qui, étant logée au 4 Tiergartenstrasse à Berlin, reçoit le nom de T4. Est-ce que c'est la première fois que des médecins vont procéder à l'extermination de leurs patients ?
Alors, de façon directe, oui, à l'époque moderne en tout cas, à l'époque contemporaine. De façon indirecte, il y a des débats sans fin sur le sort des malades mentaux durant la Première Guerre mondiale dans les hôpitaux psychiatriques européens, y compris en France. On sait qu'ils sont morts, mais ils sont morts de faim, d'absence de traitement, n'avaient pas accès à des rations supplémentaires. Ça a été le cas d'ailleurs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une extermination volontaire.
Quoique, parce qu'en l'occurrence, dans un premier temps, les moyens de donner la mort, ça va être d'administrer une dose de une surdose de phénobarbital ou de les affamer.
Alors, ce que disait Jean-Marc, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Là, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois où le corps médical assassine proprement dit ses propres patients. C'est clairement la première fois.
Et ce qui est aussi très marquant, c'est que le choix de ces victimes dans les hôpitaux ne vont pas se faire sur leur pathologie ou leur durée de vie a priori, mais donc pas du tout sur des critères médicaux, mais sur la base d'un questionnaire de trois questions.
Oui, tout à fait. Et je ne me rappelle plus des trois, mais il y en a une qui est...
Est-ce qu'il peut travailler ? Est-ce qu'il y a...
Oui, est-ce qu'il est dans la capacité de travailler ? Depuis quand il est dans cette institution ? Et la question qui semble la plus importante, c'est à quelle fréquence reçoit-il des visites ? Reçoit-il des visites et à quelle fréquence ?
Dans quelle mesure il est isolé ?
Oui.
Et ça, c'est un critère fondamental.
Oui. Alors, c'est terrible parce que ça tend, après coup, à rendre responsables les familles d'abandon de leur personne handicapée. En l'occurrence, il faut préciser qu'on est dans la guerre, que ces centres de soins étaient extrêmement isolés, qui avait quasiment pas de transport, une pénurie d'essence, etc. Donc je ne charge absolument pas les familles de ne pas pouvoir faire 100 km pour aller voir régulièrement leur, leur famille malade. Mais clairement, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui recevaient peu de visites étaient beaucoup plus fragilisées.
Alors ça n'a pas été un assassinat de toutes les personnes internées en hôpitaux psychiatriques. Il y a eu une sélection, clairement. Hein. Donc là, on rentre dans un vocabulaire qui nous est familier pour nous qui travaillons sur la Shoah plus directement, sur l'extermination des Juifs. Sélection s'est faite sans voir les patients, hein. c'est par des médecins hein, qui ont vu les dossiers médicaux, qui mettaient des croix. Trois croix, c'est à la mort. Et puis les techniques, naturellement, de mise à mort sont le champ d'expérimentation des gazages. Et
Donc ça, c'est à partir de 1940. C'est-à-dire que le processus s'accélère à partir de 1940.
Oui, mais il est mis en place à l'été 1939. Et l'ordonnance, puisque là, on a l'ordre d'Hitler hein, d'assassiner les malades mentaux, l'ordonnance est post-datée. C'est-à-dire elle est datée au 1er septembre, c'est-à-dire au début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la décision a été prise un peu avant.
C'est-à-dire que ce qui est extrêmement compliqué à comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs manières d'assassiner les handicapés. Il y a une qui a été, et il y en a deux qui ont duré toute la guerre, à savoir par injection de phénobarbital ou d'autres poisons, ou par faim. On affamait les personnes. Et ça, ça a tout le temps duré. Par gazage, c'est-à-dire c'est sur les handicapés que vont être mis au point, ce qui va être poursuivi plus tard en Pologne, mais même dans certains camps en Allemagne. La méthode par gaz, ça va durer, alors certains historiens appellent T4 uniquement les 18 mois, je dirais.
10 mois.
Enfin,
oui, un peu plus, presque
jusqu'en août 41, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ça va durer 40-41 et ça va s'arrêter net à un moment donné où Hitler va donner l'ordre d'arrêter officiellement T4.
On sait pourquoi?
Il y a beaucoup de théories. Il y en a plusieurs. La première, c'est que ça commençait à s'ébruiter parce que brusquement les...
Tout ça se faisait en Allemagne, il faut bien le préciser.
Oui,
on est en Allemagne.
On n'est pas dans une solution finale européenne. Hein. On
essaie... Les handicapés ont été tués aussi par gazage et par camion dans les nouveaux territoires, en Pologne, Poméranie...
Et en Alsace. En Alsace-Moselle. Donc c'est sur le territoire effectivement du Reich, c'est important de préciser, ce n'est pas une... Il n'y a pas une vision européenne, puisque ça concerne les Ariens, en fait, ces malades Ariens. Naturellement, les malades mentaux juifs sont les premières victimes.
Ah oui,
ils sont sélectionnés et en fait enfermés dans un hôpital psychiatrique, celui de Bourg, en fait, exactement à côté de là où travaillait Aller Forden, puisqu'il faut
devant
revenir
sa fenêtre.
Devant sa fenêtre.
C'est à 10 mètres.
À 10 mètres. Hein. Le lieu est toujours là. Les malades mentaux ont été extraits des hôpitaux psychiatriques de l'ensemble du centre de l'Allemagne pour être internés là et puis gazés.
C'est-à-dire que les handicapés mentaux juifs n'étaient plus mélangés aux autres handicapés.
Dès 1939,
dès qu'on a commencé à...
Dès cette opération.
C'est-à-dire, je ne peux pas parler de double peine, mais je veux dire, de toute façon, en tant que juif et en tant qu'handicapé, là,
ils n'avaient plus aucune chance.
Aucune chance de s'en sortir.
Sur cette opération TA4 qui a donc duré de 1940 à 1941, on sait qu'elle a fait 70 000 victimes, puisque c'est indiqué dans une liste qui date de 1941 et fait le détail de toutes les économies qui ont été réalisées grâce à ces morts. Est-ce qu'on sait combien de malades mentaux ont été assassinés dans les hôpitaux pendant la période nazie?
C'est là où c'est très très difficile. On sait que c'est beaucoup plus que 70 000 Il y a des chiffres qui tournent autour de 200 000, Jean-Marc,
En plus des 70 000, hein, 200 250 000, dans cette opération qui elle, est beaucoup plus secrète, moins centralisée, qui s'appelle 14F13, et qui va viser une population beaucoup plus diverse. Ce sont les personnes les plus faibles internées dans des camps de concentration. Et puis, à la fin de la guerre, hein, ça, on a lu des recherches récentes, en particulier de notre amie Patricia Eberer, qui travaille à Washington, et ça sert d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, il y a des personnes âgées qui sont en demande de soins, hein, de soins à la personne, qui ne sont plus autonomes, et qui se trouvent dans un quartier de la ville qui a été bombardé. Pour résoudre le problème de ces personnes âgées, et là encore, ce ne sont pas des personnes juives, on va les envoyer au gaz, ou alors elles vont être assassinées dans un hôpital par piqûre. Donc cette deuxième partie qu'a mentionné Catherine de cette opération d'euthanasie est beaucoup moins connue. T4 est relativement connue et rentrée un peu dans les mémoires des gens qui s'intéressent à la période. La deuxième partie qui est beaucoup plus meurtrière, qui est beaucoup moins structurée, l'est moins.
Moi, ce que j'ai appris, alors que je connais un peu le sujet de l'extermination, des Juifs en particulier en Pologne, c'est que j'ai toujours cru que les chambres à gaz et l'extermination par gaz avaient lieu en Pologne. Et là, j'ai découvert que je savais que ça avait été mis en place pour les handicapés dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne, mais j'ai découvert que des camps de concentration allemands, comme Sachsenhausen, avaient sa propre chambre à gaz.
Ah oui.
Et ça, je ne le savais pas. Et il y a probablement deux autres camps en Allemagne. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Je ne sais pas si vous le saviez.
Enfin, c'est des choses qui sont connues des spécialistes.
Je savais pour le camp du Struthof en Alsace, qui était sur territoire allemand pendant la guerre, mais je ne savais pas qu'en Allemagne proprement dite, il y avait des chambres à gaz dans des camps de concentration. Mmh. Et qu'il y avait les mêmes médecins de T4 qui se rendaient, par exemple, à Sachsenhausen, faire des sélections parmi les prisonniers de guerre.
Ah, qui faisaient des sélections. Parce que ce qui est aussi frappant dans ce documentaire, c'est que donc on voit que les chambres à gaz mises au point par des médecins pour tuer les malades mentaux seront non seulement un modèle pour celles qui seront identifiées plus tard pour exterminer les juifs, mais même le personnel médical va être envoyé dans un premier temps en Pologne pour superviser ou en tout cas pour former. Le lien est plus qu'évident en fait.
Ah, c'est impressionnant, puisqu'il y avait en Allemagne 6 hôpitaux psychiatriques où il va être mis ces chambres à gaz et où vont être tués ces handicapés. Et un des directeurs, qui était celui du centre de gazage près de Berlin à Brandenburg, va ensuite être dans un autre centre de gazage en Allemagne, plus à l'ouest de Berlin, sud-ouest, à Bernburg, et ensuite va être commandant de Sobibor, le premier commandant du camp d'extermination en Pologne de Sobibor. Et il va être viré parce que pas assez efficace.
Et on a les noms, c'est les noms d'à peu près un peu moins de 100 personnes qui étaient donc du personnel de T4,
des infirmiers,
des policiers. Le plan principal, organisateur étant Christian Wirth, c'était le plus haut gradé, qui vont être envoyés à partir de 41, de la fin 41, pour préparer une autre opération, hein, qui est la liquidation des juifs des ghettos de Pologne, hein, l'opération Reinhard, en utilisant les mêmes techniques. Donc ce sont les mêmes personnes. Ça procède du même cadre idéologique, bien que ça soit un peu différent par rapport aux juifs. Et ça procède aussi simplement sur la matérialité de la mise à mort. On voit qu'il y a un apprentissage, c'est-à-dire comme le gaz, comment on met le gaz, comment on fait une chambre à gaz, de demander.
Il y a des plombiers allemands qui vont aller en Pologne.
Voilà.
Des plombiers de T4.
Cette petite technologie de la mise à mort va être donc à une échelle bien plus grande, puisqu'il s'agit là, en Pologne, de l'assassinat de 3 millions de personnes. Mmh. En particulier, je donne un exemple toujours qui est très cru, je m'en excuse, c'est qu'on s'est rendu compte au début de T4 que déshabiller un cadavre, ça prend du temps. Du temps, donc de l'énergie, donc de l'argent, si j'ose dire. Et donc, on a fait se déshabiller les malades mentaux destinés à être assassinés avant qu'ils rentrent dans la chambre à gaz. Ce qui, naturellement, nous rappelle beaucoup de choses qui ça a été mis en œuvre pour les gazages des juifs.
Et des tziganes. Ceux qui ont été exterminés en Pologne, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du degré de compromission, de culpabilité du docteur Julius Hallervorden dans cette histoire ?
Là, je préférerais que nos auditeurs prennent le temps de voir le film, car on fait une proposition.
Oui, il y a une gradation au fur et à mesure.
Extrêmement subjective, parce que encore aujourd'hui, que ça soit chez les médecins, chez les neurologues en l'occurrence, puisqu'il était neurologue, beaucoup de médecins considèrent que la fin justifie les moyens et que dans la mesure où ces personnes allaient être assassinées, pourquoi ne pas se servir de leur cerveau pour faire avancer la recherche ? Et c'est le questionnement de l'ensemble du film. Et je peux vous dire que même dans mes amis proches qui ont lu le dossier, pour beaucoup de mes amis, ça ne posait pas un problème. Et donc je
n'est pas coupable.
Et il s'avère que le film s'engage clairement là-dessus.
Oui, parce qu'il y a la découverte de carnets, on le verra.
Je ne peux pas tout révéler.
Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une histoire qui, au fil du temps, on le voit d'ailleurs, Julius Hallervorden n'a jamais été jugé, mais des voix se sont élevées au fil des années. Oui. Son nom a été cité au tribunal de Nuremberg. La maladie qu'il a découverte ne porte plus son nom.
Oui. Ça, c'est très récent.
Elle
a été débaptisée il y a moins de 10 ans.
C'était extrêmement même compliqué pour les médecins eux-mêmes. Est-ce qu'en débaptisant, on n'efface pas une certaine mémoire ?
Cette maladie, elle a été découverte avant.
Bien avant, hein, oui.
En 1922.
Alors, avant toute compromission.
Alors, il y a aussi
la plaque, pardon. Je termine sur tout ce qui s'est passé. C'est important aussi quand même de voir qu'il y a quand même une prise de conscience autour de ça. Il y a une plaque en mémoire aux victimes qui a été apposée sur les murs de son institut de recherche. Et les cerveaux de sa collection, puisqu'il avait donc une collection absolument monumentale, ont eu droit à un enterrement en 1990.
Oui, c'est-à-dire, je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est évident que je trouve formidable que des chercheurs fassent des recherches sur des corps morts. Mon problème n'est pas là-dessus. C'est comment sont morts ces corps. Et à partir du moment où le docteur Hallervorden commence à dire et à aller voir les psychiatres en charge de l'extermination des handicapés et leur dire, les gars, C'est exactement l'expression qu'il a utilisée. Oui. Si vous les tuez, est-ce que vous pouvez repérer ceux qui ont telle et telle pathologie et m'envoyer leur cerveau ? Là, il franchit une nouvelle étape. Il était déjà, selon moi, déjà compromis avant, en ayant accepté d'autres choses. Mais il franchit une nouvelle étape où on est en droit de se demander à partir de quand on va commencer à exécuter pour lui. C'est tout ce qui sera abordé, effectivement, dans le film.
C'est-à-dire, dans quelle mesure, oui, il va choisir les victimes et, d'une certaine manière, les prédestiner à la mort.
Oui, tout ça au nom de la science.
Voilà, j'avais proposé d'intituler, je crois que ça a été un titre provisoire de ce documentaire, au nom de la recherche, parce que c'est quand même un grand problème dans notre société, l'argent de la recherche, l'innovation, les nouveaux médicaments. Je veux quand même rappeler qu'Aller Worden, donc son nom n'est pas très connu du grand public, mais c'est un petit élève d'Alzheimer. C'est-à-dire que dans la chaîne de la recherche sur les maladies neurodégénératives du cerveau, et naturellement, on voit les enjeux pour aujourd'hui, hein, dans notre société, il est un élève de Spielmeyer, qui lui-même a été un élève d'Alzheimer. Et il a été important, parmi d'autres, dans la chaîne de découverte pour comprendre ce qui ne va pas dans les cerveaux, dans les maladies neurodégénératives. Et le syndrome d'Aller-Worden-Spatz, qui a été débaptisé, est toujours étudié parmi les premières pathologies étudiées pour les étudiants en neurologie.
Spatz, c'est bien lui qui est compromis, qui a été condamné à mort.
Non, Spatz, c'est son directeur de recherche, on pourrait dire, mais enfin, c'était le directeur de l'institut où il travaillait. Lui a toujours nié être au courant de la provenance de ses cerveaux.
Voilà.
Donc il n'a pas du tout...
Aller Worden, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a changé son discours. C'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, il ne voyait pas le problème. D'ailleurs, il a dit aux médecins américains qui sont arrivés. Voilà. Au contraire, il a fait bénéficier la science de choses qu'il désapprouvait. D'ailleurs, il n'était pas très content qu'on tue les malades. Mais bon, si déjà ça existait, autant faire profiter la science, sa science. Et il s'est rendu compte quand même rapidement, à partir de 1946, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a changé son discours.
À partir de 1946.
Oui, très, très rapidement.
Et en même temps, vous commencez avec cette... je crois qu'il y a un colloque en 1953 à Lisbonne, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et là, déjà, il y a des voix qui s'élèvent, notamment par rapport...
Il était tellement sûr de lui qu'il a écrit des lettres au procureur du tribunal de Nuremberg pour demander à être... auditionné.
Pour se justifier.
Voilà. Appelez-moi à la barre pour que je puisse
vous expliquer.
Vous expliquer. Voilà. Après, il s'est rendu compte que ce n'était pas si simple et qu'il risquait. Donc, il est rentré dans le négation.
Donc, cette question de conscience, elle n'a pas été.
Mais la polémique qui a eu lieu au moment de ce congrès de neurologie à Lisbonne, où certains de ses confrères, hollandais, américains en particulier, remettaient en cause la provenance des cerveaux qui ont permis ces recherches. Elle perdure encore aujourd'hui. Je suis sûre que si aujourd'hui on donnait la parole à des neurologues, vous auriez 50-50 presque.
Je vous remercie beaucoup d'être venus tous les deux, Catherine Bernstein et Jean-Marc Dreyfus. Je rappelle donc que votre documentaire « Opération T4, un médecin sous le nazisme », réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé sur France 3. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je recommande aussi, Jean-Marc Dreyfus, l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Lise Haddad et qui s'intitule « Une médecine de mort », publié cette année aux éditions Vendémiaire. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.